Ce matin, il s'agit de voir la notion de travail dans le Nouveau Testament. Il est dit que notre Seigneur, bien par son esprit, accorde une diversité de dons, par sa seigneurie accorde une diversité de ministères, et puis aussi une diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. C'est sur cette base que nous nous rassemblons, sur la base de l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui opère tout. Et voilà, et maintenant que Dieu opère, eh bien, que faisons-nous nous-mêmes? Tout simplement, nous allons suivre le conseil de l'apôtre Paul qui nous dit « Soyez les imitateurs de Dieu ». Éphésiens chapitre 5, verset 1, « Soyez les imitateurs de Dieu ». Si Dieu opère, si Dieu travaille, eh bien nous aussi, nous travaillons. Et sur cette base, nous pouvons vraiment nous engager sans craindre de retomber dans ce qui est appelé le salut par les œuvres. Il ne s'agit pas de cela lorsque nous parlons de travail, il ne s'agit pas de se sauver par nos œuvres, mais d'assumer la vocation pour laquelle notre Seigneur nous a créés, avec la force, la capacité, l'intelligence, pour mettre en œuvre donc ces dons qu'il nous a accordés. Travail, travailler, ouvrier, eh bien tout cela, ça se trouve une soixantaine de fois dans le Nouveau Testament. Bon, ce qui veut bien dire que la grâce nous met au travail. Alors bien entendu, les versions varient. Maintenant, dans les nouvelles versions, lorsqu'il est question de travailler à votre salut, la nouvelle version donne « Mettez en œuvre votre salut », par exemple. Hein? Alors, il y a toujours des variantes, mais quand même, cette notion d'être à l'œuvre, donc au travail, est là, pleinement intégrée dans le Nouveau Testament. La grâce de Dieu nous met au travail. Et il y a trois implications dans cette notion de travail. Premièrement, le travail séculier. Les apôtres nous parlent de ce travail séculier et c'est avec quand même sévérité que l'apôtre reprend certains chrétiens au sujet de ce travail séculier, puisque c'est aux Thessaloniciens surtout qu'il s'adresse assez sévèrement. Il donne déjà donc cette exhortation, 1 Thessaloniciens 4, versets 11 et 12, « Mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. » Donc, première indication, qui est reprise dans 2 Thessaloniciens, alors là, de façon plus sévère, au chapitre 3, versets 10 à 12. Tout le passage parle... Non, je prends à partir du verset 6. Hein. « Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. » Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en ayons eu le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui travaillent, qui vivent dans le désordre et qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. On ne peut pas être plus clair sur la nécessité absolue pour un chrétien d'assumer ses propres charges à travers son travail séculier. C'est une instruction du Seigneur et des apôtres. Et puis il y a le deuxième aspect qui apparaît déjà là, c'est le travail des ouvriers du Seigneur. Puisque l'apôtre Paul, il y a beaucoup de références à cela, mais par exemple, dans 1 Corinthiens 15, verset 10, l'apôtre nous dit « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous les autres apôtres. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Il ne s'en attribuait aucun mérite, mais il pouvait quand même attester qu'il avait travaillé à l'œuvre du Seigneur. C'est en fait la notion d'ouvrier que le Seigneur Jésus lui-même a développée, puisque dans Matthieu, par exemple, chapitre 9, versets 37 à 38, le Seigneur parle des ouvriers pour la moisson. Et puis des paraboles aussi que le Seigneur a employées. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et un peu plus loin, il dit, par exemple, justement à ceux qui travaillent pour l'évangélisation, pour la moisson du Seigneur, ne prenez alors pour le coup ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Le Seigneur Jésus considère vraiment ses serviteurs comme étant des ouvriers pour sa moisson. L'apôtre Paul, bien sûr, lui-même, donc, se présente comme un ouvrier qui a travaillé donc pour le Seigneur, et il présente justement ceux qui sont des ouvriers trompeurs. De Corinthiens 11, verset 13, par exemple, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Il demande aux Philippiens de se méfier donc des mauvais ouvriers. Philippiens chapitre 3, verset 2. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Et puis à Timothée, il demande de se présenter comme un ouvrier qui n'a pas à rougir. De chapitre 2, verset 15, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Donc, le ministère lui-même d'évangéliste, d'apôtre, de pasteur, de docteur, est un travail pour le Seigneur. Ce sont des ouvriers du Seigneur. Et il y a de bons et véritables ouvriers, et il y en a de mauvais et de faux ouvriers pour le Seigneur aussi, que nous devons donc prendre garde de ne pas côtoyer ou mettre en avant. Alors il y a donc cette notion, toute l'œuvre de Dieu demande un travail, et l'apôtre quand même peut dire « j'ai travaillé plus que les autres ». Hein, et en fait, il était constamment sur les routes à aller annoncer l'évangile là où il n'était pas connu. Et il le dit carrément, nous nous fatiguons. Hein, il a supporté toutes sortes de fatigues pour le service de Dieu. C'est donc bien un travail qu'il avait pour le Seigneur, et c'est le cas pour tous les serviteurs. Il s'agit véritablement d'un travail. Et puis il y a la troisième notion qui est déjà, d'ailleurs dans une parole de l'apôtre, lorsque il dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, Nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. On est toujours dans la notion de travailler pour le Seigneur, mais il y a ici ajoute aussi une notion spirituelle qui revient dans d'autres passages. C'est la question en fait du travail que l'on fait, qui n'est pas seulement un travail donc matériel ou intellectuel, mais le travail de l'âme, le travail vraiment de l'esprit. Et dans Philippiens, donc, il nous est demandé de travailler pour le coup à notre salut. Philippiens, donc, au chapitre 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre ou travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Travailler à notre salut, c'est vraiment là le travail de l'âme, le travail intérieur, la recherche de la grâce, de la vérité, de tout mettre sous l'autorité de Dieu, le travail de la foi, mettre sa confiance dans le Seigneur. Jésus disait déjà dans l'Évangile, hein, au chapitre 6 de Jean, verset 27, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Et ils lui dirent, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Donc là, on revient bien sur la notion spirituelle de mettre sa confiance en Dieu, de s'approcher du Seigneur, de le rechercher et aussi de, je vois par exemple 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 3 où il met en évidence pour les frères le travail de votre charité, dit-il, travail de votre charité. Donc on peut dire que, voilà, spirituellement, nous sommes en travail et nous devons, voilà, mettre en œuvre le salut que le Seigneur nous a accordé, hein, de la bonne façon. Il est clair, donc, que l'œuvre de la foi est aussi un travail sur nous-mêmes. Hein. Et si nous travaillons bien, qu'est-ce qu'il produit, qu'est-ce que produit le travail? Eh bien, l'abondance. Hein, Proverbe chapitre 14, verset 23. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Et ça peut être le cas sur le plan spirituel. Nous pouvons évoquer plein de choses, des concepts, mais que tout cela, ce soit des paroles en l'air. Tandis que si nous travaillons véritablement dans la foi, il y aura un fruit, il y aura un résultat. Sur le plan spirituel, hein, initialement, la responsabilité que le Seigneur avait donnée à l'homme dans le jardin, est-ce que vous l'avez à l'esprit? Il place à l'homme au milieu donc du jardin afin de le cultiver et de le garder. Les deux aspects du travail spirituel, cultiver et garder. Voilà ce à quoi nous sommes appelés aussi par rapport à la vie de la foi. Cultiver, bah, tout simplement par une connaissance personnelle qui augmente par les moyens d'édification individuelle et collectif. Hein, nous cultivons le champ de Dieu. Nous cultivons notre vie personnelle, spirituellement, et notre vie communautaire. Et sur le plan de garder, eh bien là, nous veillons, nous sommes attentifs aussi afin d'encourager nos frères et sœurs, de les soutenir sur un plan spirituel, sur un plan même parfois humain, matériel, être là pour les garder du découragement, les garder de l'erreur, garder de tomber dans la séduction. Voilà, il y a plein d'aspects à ce fait de nous garder dans le Seigneur. Cultiver la vie de la foi, cultiver la connaissance et garder pour empêcher de tomber, empêcher que l'ennemi n'infiltre donc la vie chrétienne, n'infiltre l'Église, n'infiltre la vie des enfants de Dieu. Et alors aussi, se mettre d'accord les uns avec les autres, parce qu'il n'y a pas de travail finalement qui tienne s'il n'est pas réalisé en symbiose avec les autres, en communauté. Le travail ne concerne pas seulement notre vie personnelle. Automatiquement, il implique les autres, se mettre d'accord avec le prochain pour partager la responsabilité. Personne n'assume à soi tout seul tous les aspects d'une œuvre. Hein, voilà, je sais bien que maintenant on exalte les auto-entrepreneurs, mais enfin, le modèle quand même efficace, c'est une entreprise bien organisée avec voilà, des dirigeants, des salariés, des personnes, des cadres, chacun à son niveau de responsabilité. Et sur le plan spirituel, c'est la même chose. Il y a donc dans un livre que j'ai médité, relu pour cette journée, une analyse donc de la situation du travail, hein, et on peut véritablement le mettre en œuvre sur le plan spirituel. Premièrement, bah, que chacun travaille, assume son travail personnel, hein, que chacun assume sa responsabilité personnelle. Deuxièmement, garder le sens, et cela nécessite parfois de se réorienter. Il y a voilà, des engagements que nous avons, et puis au bout d'un moment, nous finissons par perdre la raison pour laquelle nous travaillons, et nous travaillons de cette façon. Et donc parfois il faut se poser, il faut peut-être remettre en cause et réorienter certaines façons de faire que nous avons prises. Et puis un troisième point que je trouve très très important, très éclairant sur le plan spirituel: éviter le piège de la gloire personnelle qui cache la gloire du prochain. Faire en sorte que chacun soit honoré dans ce qu'il fait pour le Seigneur, en l'occurrence, hein, pour nous, dans une assemblée. Que chacun soit mis en valeur, que chacun soit reconnu dans la tâche qu'il accomplit, de sorte que personne, ne s'accapare la gloire pour lui-même. Parce que là, c'est l'homme qui est mis en avant et ce n'est plus la gloire du Seigneur. Et la gloire du Seigneur resplendit sur chacun de ses enfants. Donc si nous voulons travailler bien sur le plan spirituel, eh bien, nous sommes appelés à mettre en avant les dons et les capacités de chacun des enfants de Dieu. Travail nécessite une force de réflexion afin qu'il soit efficace. Il y a dans l'Ecclésiaste cette mention qui est intéressante, hein, au chapitre 10, verset 10 de l'Ecclésiaste. En fait, l'Ecclésiaste n'est pas seulement une réflexion sur la vanité de la vie en général, mais aussi sur justement le travail. Il y a 8 mentions du travail dans le livre de l'Ecclésiaste, et il y a cette parole chapitre 10, verset 10. Je prends à partir du verset 9, celui qui remue des pierres en sera blessé, et celui qui fend du bois en éprouvera du danger. Déjà, ça c'est une notion que je n'ai pas notée, mais qui fait que si nous nous engageons à travailler pour le Seigneur, il y aura quand même des risques de blessures, des risques, des difficultés, hein, des épreuves à surmonter. Mais il y a cette parole qui suit, s'il a émoussé le fer et s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force, mais la sagesse a l'avantage du succès. Donc, affûter la réflexion, se préparer spirituellement et de sorte de bien connaître les Écritures, de bien connaître les difficultés de la vie chrétienne et être prêt à répondre à ces différents aspects en ayant travaillé le sujet pour être efficace au moment voulu. Donc, affûter et aiguiser le tranchant de nos outils. Et puis, la collaboration, l'idée de collaboration qui est également dans l'Ecclésiaste, hein, puisque chapitre 4, oui, versets 9 à 10. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Être donc ensemble, collaborer, se soutenir mutuellement. Et puis aussi, là on le trouve dans l'Évangile, la notion d'anticipation. Hein, quel est celui qui veut construire une tour et qui ne s'assied d'abord pour réfléchir s'il a de quoi construire jusqu'au bout, hein, ou bien celui qui veut marcher à la rencontre d'une armée s'il n'a pas les capacités donc d'avoir les forces pour aller remporter la victoire, il s'abstient de ce combat. Voilà, il y a aussi donc une notion d'anticipation. Si nous voulons travailler ensemble, nous devons aussi réfléchir ensemble à ce à quoi nous allons nous engager, ce qui est à la mesure de nos forces, de nos capacités, des dons que le Seigneur nous a accordés à un moment donné. Et tout cela, eh bien, ça évolue, hein, et nous devons donc nous mettre régulièrement à réfléchir à ce que nous pouvons faire au moment voulu pour l'œuvre de Dieu, pour notre progression interne et pour notre progression externe aussi par l'évangélisation. Hein, ne pas nous engager dans des œuvres qui sont trop grandes pour nous ou pour lesquelles nous ne sommes pas assez bien préparés. Et il n'est pas impossible que cela porte quelques fruits, mais c'est mieux de se préparer avant d'agir. D'où d'ailleurs tous les séminaires qui peuvent exister, les écoles bibliques, enfin tout le travail qui peut avoir été mis en place déjà, toutes les structures qui existent pour nous donner les capacités de bien travailler pour le Seigneur. Donc tout cela, nous devons le mettre en œuvre dans notre vie personnelle, mais aussi dans le fonctionnement, dans notre vie spirituelle, dans notre vie d'église. Et surtout, ne pensons jamais que nous recevrons tout comme cela du Seigneur sans travailler. Ce n'est pas le schéma de l'Écriture. Le Seigneur nous demande de travailler avec lui. Nous sommes ouvriers avec Dieu, comme dit l'apôtre. Et si nous ne travaillons pas, eh bien, nous aurons la disette, même sur le plan spirituel, ecclésial. Et aussi, cette notion de travail, il faudrait donc l'approfondir, mais si nous n'avons pas appris à travailler, nous ne saurons pas non plus faire face aux épreuves, aux difficultés, aux souffrances de la vie, parce que tout travail implique une souffrance. Parce que lorsque nous travaillons, nous avons en face de nous, même dans les conditions les plus simples, nous avons en face de nous une inertie ou une résistance. Et donc travailler, c'est réussir à aller contre cette inertie pour obtenir un résultat, hein, et faire progresser ainsi les choses. Donc nécessairement, lorsque nous travaillons, nous nous fortifions spirituellement également, moralement, pour être capable d'affronter les épreuves et les difficultés. Mais quelqu'un qui perd cette notion, comment va-t-il réagir et faire face lorsque une épreuve arrive, lorsque des difficultés sérieuses se présentent dans sa vie, hein, bien souvent, à ce moment-là, eh bien, les personnes coulent, s'écroulent, sont accablés, ne peuvent pas réagir face à l'épreuve, parce qu'ils n'ont pas appris, on peut dire petitement, à travers le travail régulier, hein. Et si nous le faisons, eh bien le Seigneur nous gardera aussi lorsqu'il faudra travailler à combattre l'ennemi qui nous attaque sévèrement. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne aussi de continuer à réfléchir, à approfondir, et c'est ce que nous ferons déjà cet après-midi, hein. Mais voilà, plus en avant encore dans votre vie. Amen.